de fixer votre attention. J'ai voulu lire plus court, mais malheureusement, c'est difficile d'arrêter avant le terme des versets qui en parlent. Voilà. Quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils ? Verset 35, pardon, excusez-moi. Voilà. Alors, il est dit, quelqu'un dira, est-ce que vous le savez ça ? Cette question, comment les morts ressuscitent-ils ? Vous le savez ? Et avec quel corps reviennent-ils ? Est-ce qu'il y en a qui le savent ? Levez la main. Voilà, donc il y a quelques-uns qui le savent, d'autres ne le savent pas. Donc voilà, la Bible essaie de répondre à cette question. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt. Et est-ce que tu sèmes, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, mais un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Pour Dieu, puis Dieu lui donne un corps comme il le veut. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre celle des hommes, autre la chair des animaux, autre la chair des oiseaux, autre la chair des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes et autre est l'éclat des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semés corruptibles, on ressuscite incorruptibles. Semés méprisables, on ressuscite glorieux. Semés plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. Semés corps naturel, on ressuscite corps spirituel. Il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le deuxième homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères et sœurs, je le rajoute, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur ou dans l'union avec notre Seigneur. On va lire aussi dans Thessaloniciens, donc c'est quelques épîtres plus loin, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et un dernier verset que nous lirons dans Genèse au chapitre 2, tout à fait au début donc de la Bible. Genèse 2, 7. Non, 8. Non, 7, pardon. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint une chair vivante. Qu'est-ce que vous avez comme traduction ? C'est ce que vous avez, chair vivante? Être vivant? D'autres? Âme vivante? D'autres? Pardon? Non? Alors je répète, il y en a qui ont être vivant, d'autres qui ont âme vivante. C'est ça? Pas d'autres? D'accord. Voilà. Eh bien, on va voir un petit peu quels sont. Moi, ça m'a toujours posé problème, ces versets-là, enfin, tout au moins dans Genèse, parce que j'aime bien comprendre les choses en profondeur, et ça m'a troublé. Ça m'a troublé. Il n'y a que en préparant ce message que la lumière m'est venue pour clarifier vraiment les choses. La question, bien sûr, est l'immortalité. Il y a deux choses que se pose chaque être humain qui se trouve sur la planète, même s'il se dit athée, il se pose deux choses. Quel est le sens de ma vie? Ok? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Quel est le sens? Parce que la capacité de l'homme par rapport à l'animal, c'est qu'il a une réflexion, une conscience qui a une destinée quelque part pour lui, et il se pose la question du sens. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est quoi? Ce qui va avec le sens. Pardon? Voilà, alors je dirais l'immortalité. L'immortalité, pourquoi je meurs, quoi? Si j'ai du sens, pourquoi je meurs? Vous voyez, les deux vont ensemble, parce que si je meurs, il n'y a pas de sens. Enfin, s'il n'y a rien après. S'il y a quelque chose après, le sens, c'est comment ça se passe, qu'est-ce que c'est, etc. Donc c'est deux choses qui, de toute façon, sont liées à l'être humain, parce qu'il a été fait comme ça par Dieu. La deuxième problème, qui est un combat entre théologiens et entre facultés de théologie, c'est: est-ce que la vision de l'homme dans la Bible, est-ce qu'elle est dichotomique ou trichotomique? Alors ça veut dire quoi? Est-ce qu'il est fait de deux parties ou de trois parties? Deux parties ou de trois parties? Et je vous assure que c'est ce bagarre. Hein. La faculté de théologie de la DVO dit non, c'est deux. Voilà. Et je sais que dans le TQP, vous avez l'enseignement comme quoi l'homme est trois, esprit, âme et corps. Et vous avez vu que j'ai lu en Thessaloniciens ce verset où dit que vous soyez conservés esprit, âme et corps. Bon, donc c'est clair qu'il y en a trois. Mais pourquoi une fois deux? Pourquoi une fois trois? Alors en plus, l'ambiguïté est malmenée par les traductions, la traduction dans Genèse qui dit que nous sommes une âme vivante. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Pourquoi pas le corps? Enfin bref, c'est un gros dilemme. Si vous réfléchissez vraiment à fond, c'est très difficile à résoudre, sauf ce que je vais vous expliquer ce matin, qui pour moi est clair comme de l'eau de roche, et qui va permettre de mieux saisir, d'une part, comment la révélation se fait, que la révélation, ce n'est pas justement un livre, un peu comme chez les musulmans, qui tombe du ciel, mais Dieu inspire par le Saint-Esprit des hommes intelligents, ou moins intelligent, peu importe, mais il inspire, et la traduction de cette inspiration dans les livres, les 66 livres de la Bible, ont un sens quand on cherche pourquoi et comment ils sont écrits. Voilà donc les problèmes auxquels je vais essayer de vous donner une réponse, et puis surtout éclairer le texte de 1 Corinthiens qui parle de cette mort qui va être vaincue et qui nous donne la victoire définitive. Alors pour ça, il faut que je remonte un petit peu au peuple. Comment la civilisation sur Terre est née? Il y a plusieurs théories, mais moi je ne m'appuie pas sur des théories, je m'appuie sur la Bible. Donc la Bible dit que au moment de Noé, qu'est-ce qui s'est passé à Noé? Il y a le déluge. Avec le déluge, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le récit biblique. Hein, c'est pas le récit. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout a été effacé de l'humanité. Et Noé, avec sa famille, a recommencé à repeupler la terre. Vous voyez, donc avant Noé, il y a eu un peuplement, mais ça s'est arrêté et ça a recommencé. Donc, on peut dater aujourd'hui les civilisations à partir de Noé. Noé, il avait combien de fils ? Comment il s'appelait ? Alors, Sem. Je vais mettre Cham là. Et Japhet. Voilà. Alors ça, c'est une donnée biblique. Ensuite, après, on va un peu plus dans des spéculations, puisque la Bible n'est pas un livre d'histoire, au sens où voilà, elle veut expliquer en détail la sociologie humaine. Mais on va essayer de voir que ces trois fils ont donné lieu à trois types de peuples sur la terre. Okay. Sem a donné le peuple des Sémites, c'est pas compliqué. Japhet, c'est les Japhites. Et Cam, c'est les Chamites. Voilà, vous n'êtes pas beaucoup plus avancés. Mais voilà. Pour faire très vite, hein, je ne peux pas vous développer ça dans l'espace qui m'est réservé de temps. Sem, ils sont globalement. J'ai toujours du mal à ouvrir ça. Ah, c'est pas possible, ils font des trucs. Voilà. J'ai essayé de dessiner une carte, mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Tiens, là, il y a les meilleurs, la Géorgie. Voilà. Quelque chose comme ça. Bassin méditerranéen, là c'est l'Italie. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Ça c'est la mer, comment s'appelle la mer ? Mer Noire. Mer Noire ici. Voilà. Ici c'est Constantinople, Byzance, quoi. Voilà. Ici c'est la Grèce. Non, j'ai mal dessiné la Grèce. Ici c'est l'Égypte. Ici c'est l'Euphrate, etc. Voilà. Globalement, on considère. Hein, c'est pas. Précis, mais globalement, on considère que les Sémites ont peuplé tout le bassin ici de la Mésopotamie, hein, avec l'Euphrate, etc., tout ce qui est marqué dans la Bible, toute la Mésopotamie, et qu'à partir de là, les peuples sont allés vers l'Est, donc l'Orient, si vous voulez, et ont peuplé l'Inde, le Pakistan, la Chine, jusqu'au Japon. Voilà. Donc les Sémites, ce serait plutôt dans ce sens-là. Y compris la Turquie, qui est l'Asie mineure, donc c'est toute l'Asie. L'Asie mineure, l'Asie du Proche-Orient et du Moyen-Orient et d'Extrême-Orient. Voilà, donc les Sémites. Cham, c'est les Chamites qui auraient peuplé l'Égypte et après toute l'Afrique. Donc globalement, le peuple africain, qui ensuite, après, bien sûr, a disséminé ailleurs. Mais voilà, à cette époque-là, c'était le démarrage de cette ethnie qui part de l'Égypte, les Chamites, etc. Et Japhet, ce serait la Grèce, partir de la Grèce et tout l'Occident. Vous voyez, donc, quelque part, alors il y a une carte qui est comme ça. Enfin, pas une carte, mais un symbolisme que vous découvrez dans les livres d'histoire, hein, qui sont très vieux, dans les différents trucs, où on a ici les Sémites, les Japhites et les Camites, qui sont l'origine de l'humanité, reconstituée à partir de Noé. Voilà, donc je répète, les Sémites dans Asie, et ici Mésopotamie, et qui font l'Asie, hein, plutôt les civilisations de l'Asie. Ici, la Grèce, mais l'Europe, voilà, l'Europe. Ici, l'Afrique, pour simplifier. Voilà. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que à partir de là, on va essayer de voir comment ces peuples, donc je remets ici Sem, Cham et Japhet. Sachant que il y a un sémite que vous connaissez bien, qui était à l'origine du peuple hébreu, qui s'appelle comment ? Abraham. Abraham, il était sémite, Donc à partir d'Abraham, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que Dieu a appelé Abraham. Ça s'appelle un appel. Il était appelé par Dieu. Donc il y avait Jéhovah qui a appelé Abraham et qui, à partir de lui, a donné le peuple hébreu, bien sûr, à partir de Moïse, mais qui, avec les patriarches, ont commencé à donner un nouveau peuple qui se rajoute à ces trois peuples naturels. C'est le peuple de Dieu, qui est un peuple qui vit sur la révélation. Alors j'aimerais rapidement vous dire, j'ai fait quelques études là-dessus, dire comment on explique l'origine de l'homme, pour expliquer ensuite après l'immortalité, comment on conçoit l'immortalité. Parce qu'on conçoit l'immortalité ou par révélation ou par une compréhension naturelle. Alors la compréhension naturelle de l'immortalité et du sens est différente suivant l'origine des peuples. Ici, on considère les Sémites, je parle, les Sémites avant Abraham, parce qu'il y a une petite modification ensuite sur l'Asie, considère que l'homme est en deux parties. Voilà, une partie qui est l'esprit, et l'autre partie qui est la glaise. Par exemple, si vous prenez la mythologie sémite, donc la mythologie, elle est connue, puisque les fouilles archéologiques et tout ça ont donné toute la façon dont on comprend ou on interprète l'origine de la civilisation. Donc cette partie-là est considérée, enfin les sémites, d'ailleurs Abraham qui était dur en Chaldée, qui adorait la lune, le soleil, etc. Dans cette civilisation, on croyait que les dieux qui sont dans les étoiles, qui sont en correspondance avec les étoiles, la lune, le soleil, etc., ils dirigent les hommes, ils dirigent l'humanité, et ils ont fait l'humanité pour les servir. Donc l'humanité est là pour servir ces dieux-là. Donc on les adore forcément et on leur donne notre... Et que le dieu de la sagesse, qui s'appelle Enki chez les sémites, Enki a appris à une déesse mère à fabriquer les humains. Il lui a donné un moule, fabriquer un moule, met de la glaise dedans, ferme le moule et il fabrique des humains. Voilà. Et en fait, la capacité de ces déesses, et en particulier la déesse principale, elle souffle sur la glaise et l'homme prend vie. Donc là, il y a un souffle de la déesse. Vous voyez ? Je signale que c'est féminin. Donc la glaise, elle est présente et dans la Genèse est marqué c'est le glaiseux. Adam, c'est le glaiseux. Si vous prenez la Bible Chouraki a essayé de traduire tout littéralement à partir de la compréhension hébraïque. Donc vous voyez, il y a une certaine correspondance entre la croyance initiale du peuple et la transmission dans la Genèse. Ici dans la Genèse, vous avez l'esprit qui est le nefesh. Si vous lisez l'hébreu, la Bible en hébreu s'appelle le nefesh, qui est le souffle, qui est le souffle de Dieu, qui est le souffle du Saint-Esprit, qui a soufflé sur un homme qui était la glaise. Donc c'est Adam. Adam, c'est Adam. Ça veut dire glaise ou terre, ou voilà, la poussière du sol. Voilà. Et ici, ça s'appelle le... Alors, j'ai un trou. Le bazar. Oui, c'est facile. Voilà, c'est le bazar. Voilà. En hébreu. Ceux qui apprennent l'hébreu, je vous le recommande, mais moi, c'est un peu trop tard pour commencer. Enfin, c'est jamais trop tard, mais... Donc, il y a le nefesh et le bazar. Donc les deux mots qui sont utilisés dans la Bible en hébreu, c'est nefesh et bazar. Ce qui fait que dans votre Bible, le verset qu'on a lu dans Genèse, là, 2 versets 27, il faudrait dire que l'Éternel Dieu souffla, forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle, donc un néphesh, c'est marqué, et l'homme devint un bazar vivant. Voilà. 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 Ça va, hein, ça vous fait sourire, là. Alors, bazar est traduit par chair. Une chair. Et vous voyez la chair un peu partout dans la Bible. Hein. La chair revient souvent. Marchez pas par la chair, marchez par l'esprit. Hein. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, ce mot revient. La chair. Alors, en grec, ça s'appelle pas bazar, ça s'appelle S-A-R-X, sarx. Mais la correspondance est la même, en grec ou en hébreu. Voilà. Maintenant, si on vient d'autres peuples, hein, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Si on vient à Japhet, non, à Cham, par exemple. Voilà. Cham, lui, il a trois. Les Chamites, ils ont trois distinctions de l'être humain. De l'être humain. Il y en a un, donc particulier l'Égypte, hein, c'est le Ka, c'est le Ba, et c'est le corps. Alors, je vais pas regarder le corps en égyptien, mais c'est le Ka là-bas. Le Ka, ils disent que c'est le double spirituel. C'est l'esprit, un esprit spirituel, voilà, qui vient de la divinité. Le bas, c'est globalement l'âme, et le corps, c'est le corps comme nous aussi. Et on reviendra tout à l'heure comment ils traduisent ça, parce que toutes ces croyances conditionnent le sens qu'on a de l'immortalité et du sens de la vie. Et Japhet, donc c'est les Grecs, c'est les Hébreux. Ah non, c'est les Sémites, et là c'est les Hébreux. On fait une différence entre Hébreux et Sémites. Mais là c'est les Grecs, c'est Japhet. Il y a trois aussi compartiments qui sont prévus. L'être est tripartite. C'est l'esprit, l'âme et le corps. Sachant que l'âme c'est le psyché, et le corps c'est le soma, en grec, et l'esprit c'est le pneuma. Pneuma, ça vient de la pneumonie, la respiration, le souffle aussi, etc. Vous voyez que globalement, il y a une certaine unité, sauf que là, on est en une compréhension à deux parties. Là, on est à trois parties. Ici, le pneuma, la particularité du pneuma, c'est qu'en fait, dans la compréhension grecque, ils disent qu'ici, c'est le nous. Le fameux nous des philosophes, qui en fait est la raison. C'est pour ça qu'en français, quand on parle d'esprit, il y a une grande confusion, parce que beaucoup de gens parlent de l'esprit en pensant intellect. Et pas esprit comme nous, on pense le souffle de Dieu, qui est l'esprit de Dieu. Et c'est pour ça que la raison, particulièrement en France, qui a adopté le modèle grec, puisqu'on est en Europe, hein. On a hérité, mais nous on est plus en avant en Europe que tout le monde sur la compréhension intellectuelle, que c'est l'intellect qui est divin. Et du coup, cette compréhension-là a amené à la gnose. Gnosis, ça veut dire la connaissance. C'est-à-dire que par la connaissance de la raison, on peut se sauver. C'est-à-dire que le salut... Alors bon, je reviens un petit peu en arrière pour dire, toutes ces trois compréhensions païennes, hein, puisque là c'est païen. Païen, ça veut dire non croyant dans le Dieu monothéiste, hein, qui est Yahvé. Et ici, c'est les croyants hébreux. Et ensuite, on verra les croyants chrétiens à partir de Christ. Comment s'est repris cette compréhension. On voit que dans tous les trois païens, ce qui est intéressant, c'est que l'origine de l'homme au niveau de la vie vient du féminin, vient des déesses. C'est étonnant. Bon, c'est pas étonnant dans le sens où justement c'est le pas de rébellion contre Dieu qui lui dit ça vient du masculin, ça vient d'Adam. Et eux ils disent ça vient d'Ève. Ici, ça vient des déesses. Ici, la fameuse déesse, vous connaissez très bien, c'est Isis. Isis, avec la mythologie qui donne la vie à Osiris, son mari, qui est aussi son frère, et les sœurs, etc. Enfin, voilà, donc c'est la mère, et c'est elle qui donne la vie. Et ici aussi, la raison, elle est identifiée par Sophia. Sophia, ça veut dire la sagesse. C'est aussi une déesse qui donne la vie. Donc, vous voyez, la compréhension déjà du sens de la vie, ça vient du féminin. Et ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, le nouvel âge, qui est la nouvelle religion mondiale, c'est tout féminin. C'est tout basé sur le féminin. Ici, c'est Yahvé. C'est le Père qui donne la vie à sa créature. Alors, on va voir le salut. Comment est-ce que le salut est compris concernant l'immortalité? Comment est-ce qu'on peut vivre immortellement? Ici, ça a un petit peu changé avec l'Asie. En Asie, on considère qu'il y a à nouveau trois composantes de l'être humain, qui est effectivement l'esprit, mais l'esprit supérieur, l'esprit inférieur et le corps. On retrouve à peu près cette tendance-là égyptienne. Et ça, c'est actuellement, c'est tous les êtres humains de la planète cherchent ça, en particulier les Français, les Américains encore plus. C'est le bouddhisme, c'est l'hindouisme, c'est toutes les religions orientales. Ou le corps, voyez-vous, la notion du corps, parce que c'est là que je vais en arriver, l'immortalité du corps qui pose problème. Le corps, ici vous avez le corps, ici vous avez le corps. Okay. Le corps est mis en valeur. Et que ce soit dans la chrétienté ou chez les Hébreux, le corps, il n'est pas mis en valeur. Il n'est pas mis en l'air, mais il n'est pas non plus mis en dédain, hein, contrairement à ces croyances-là. Ici, la croyance, c'est que le corps est un véhicule de l'énergie qui est dans le ciel, puisque dans le ciel, il y a de l'énergie, hein, l'énergie du soleil, l'énergie de la lune, l'énergie des étoiles, tout ça. Et le corps doit être mis en harmonie avec les êtres célestes. D'où le yoga, d'où donc les chakras et compagnie, pour énergiser. Voyez. Alors, c'est pas, vous voyez qu'il n'y a jamais rien de faux avec Satan, le père du mensonge, mais c'est toujours un mélange entre faux et vrai. C'est vrai qu'on a besoin de manger pour avoir l'énergie. Hein. Barre de Mars, ça fait du bien, ça redonne du peps. Tout un tas de choses, mais bon, ma sœur va plutôt aller vers du bio, tout ça, voilà. Donc, il y a tout un tas de croyances qui vont nourrir cette croyance que le corps doit être pris en compte, hein, et non, pardon, ici, mais là-bas aussi, le corps doit être pris en compte pour être énergisé. Et ça, c'est à la mode, hein, c'est in. Hein, aujourd'hui, tout le monde y va, même les chrétiens. Hein. Je ne dis pas que c'est faux, hein, il faut s'oxygéner, tout ça, c'est vrai. Okay. Mais là, c'est vraiment basé là-dessus, et on dessine même l'être humain, hein, voilà, avec les chakras qui montent, voilà, vous voyez, voilà, et qui énergisent le corps. Hein, c'est la kundalini, c'est l'éveil de cet esprit inférieur qui est potentiel et par rapport à l'esprit supérieur, où vous pouvez devenir effectivement immortel. Et vous devenez immortel dans cette explication et dans ces pratiques. Ça fait très attention quand vous mettez vos enfants au yoga ou autre. Le principe du yoga, ce n'est pas de la gymnastique. Le principe du yoga, c'est pour harmoniser votre corps avec les puissances supérieures qui sont là pour guider l'homme, pour le contrôler. Donc c'est du contrôle de l'homme. On se soumet naturellement à ces puissances qui sont là. Alors, vous voyez, en tant que chrétien, on est libéré de la puissance de Satan et avec ça, on se remet sous les puissances. Vous voyez, c'est une question de droit où l'être humain, lui, naïf, en particulier le chrétien, se livre et qui pose d'énormes problèmes, bien sûr, après, aux chrétiens qui ne comprennent pas pourquoi il a des problèmes. Pourquoi. Si on en vient ici à Cham, avec cette vision-là, qui est aussi tripartite, le corps, là, ça vous dit quelque chose, les momies ? Vous avez déjà vu les momies de Pharaon, Toutankhamon, etc. Voilà. Vous voyez que le corps est important. Et pourquoi il est important ? Pourquoi ils mettent des bandelettes, qu'ils le mettent dans les sarcophages, qu'ils le mettent dans les tombeaux, qu'ils le mettent, etc. Vous voyez, le corps est très, très important dans cette conception chamite. Qu'est-ce qui fait le corps ? Pourquoi le corps est important ? À la mort. Et oui, ici, c'est intéressant. Il est intéressant dans la vie. Et c'est pour ça que les gens y vont, là. C'est le bonheur, là. Vous voyez, c'est le bonheur. Votre corps est énergisé. Vous pouvez devenir Dieu, quoi. Vous pouvez trouver l'immortalité juste avec des pratiques de yoga, etc. Ici, pourquoi la mort, le corps mort est important ? C'est une religion de mort. Hein. Pardon ? Parce qu'ils croient. C'est une question de croyance. Hein. C'est là où ça se passe. Une croyance. Ils croient que le corps, il faut qu'il soit préservé parce que le bas, qui est l'âme, et le cas surtout, l'esprit supérieur, quand il va revenir décider que cette personne va se réincarner dans une autre vie, il faut que le corps soit présent, sinon il ne peut pas se réincarner. C'est la réincarnation. Là, ici, tout est basé sur la réincarnation. Et ça, il y en a un qui était à fond la caisse là-dedans, c'est François Mitterrand. Ah oui, François Mitterrand était persuadé qu'il était la réincarnation de Séti II. Séti II, c'est un pharaon qui a vécu au temps des Hébreux. Et il était persuadé que c'est cet esprit qu'il réincarnait et qui préparait l'autre esprit. D'ailleurs, il a dit « Je serai avec les Français en esprit ». Et il l'a dit dans tous les magazines, y compris Paris Match. Et sa femme, du jour aujourd'hui, qui est en vie, elle le confirmera. Et il allait en Égypte régulièrement pour cette croyance-là, même si vous ne le saviez pas. Mais il s'est fait aussi baptiser bouddhiste dans la Seine, ceux qui veulent le chercher. Et il a tout essayé. Il a tout essayé. Hein. François Mitterrand a tout essayé, parce qu'il cherchait l'immortalité, beaucoup plus que n'importe qui. Mais bon, c'est un peu une caricature de celui qui cherche sans vraiment trouver. Et à la fin, d'ailleurs, il s'est fait enterrer à Notre-Dame parce qu'il croyait aussi que la Vierge pouvait faire quelque chose pour lui. Là, c'est Notre-Dame. Enfin, ça, c'est encore une autre histoire. Donc, il a mangé à tous les râteliers. Comme ça, il était sûr qu'il n'en loupe pas, quoi. Donc, vous voyez, ici, le corps, c'est la mort. Donc, on célèbre la mort, ici. Vous voyez ? Ici, on célèbre le bonheur sur Terre, voilà. Donc faites tous du yoga, allez tous faire les religions hindoues, bouddhistes et tout ça, et vous serez heureux. Voilà, en gros, c'est le message du nouvel âge aujourd'hui. Ici, la mort, c'est la réincarnation. Si vous n'êtes pas content de votre vie, bah, vous allez vous réincarner, vous allez devenir un ours, après un machin, après sur des pharaons, pour les plus élevés, peuvent devenir des pharaons et des rois sur la terre. Ici, vous voyez, la particularité de cette compréhension-là, c'est de croire que c'est notre raison qui va nous sauver. C'est notre intelligence qui va nous sauver. La connaissance, c'est l'arbre de la connaissance. Et donc les Grecs, ils ont adopté cette compréhension, cette croyance que c'est l'arbre de la connaissance. On connaît tout, on connaît le bien, le mal, et on les mélange. C'est pour ça que ce symbole, hein, qui est le symbole des médecins, c'est le caducé d'Hermès. C'est une connaissance hermétique. Hein, quand vous rentrez dedans, vous allez devenir très intelligent et vous devenez divin. C'est-à-dire qu'ici, quand vous arrivez là-haut, vous êtes divin, la gnose. Et ça, c'est les échelles des francs-maçons, tout un tas d'échelles de Jacob qui sont spiritualisées pour arriver soi-même. Ça, c'est arriver à la divinité par soi. Et ça, c'est sur le fronton de Notre-Dame de Paris. Vous pouvez tous y aller et puis le voir. Hein, c'est de l'alchimie. Voilà, la gnose. Et ça, ça va détruire l'Église. Alors revenons maintenant à la Bible, parce que l'idée, c'est pas de faire un cours sur le paganisme. Hein. Mais si vous prenez les Hébreux, ils ont adopté la croyance sémite. Donc ici, vous avez l'esprit, qui est le Nefesh, et la chair, qui est le bazar. D'accord ? Et la vie, elle vient comment ? Ben, elle vient par l'esprit, l'esprit de Dieu, qui est l'esprit de vie, qui est le pneuma, qui est le roua, en fait, en hébreu, qui deviendra le pneuma en grec, hein, voilà, pneuma en grec, et qui donne la vie. C'est-à-dire que l'esprit ici, qui est le souffle, hein, qui est donné à n'importe quel être humain, c'est un souffle qui a un potentiel. C'est un peu comme un ballon qui est gonflé, et petit à petit se dégonfle. Puis la mort s'ensuit, quoi. Vous n'avez plus de ballon, vous n'avez plus de souffle. Donc la chute a fait que la vie qui a été donnée, hein, ça c'est la vie elle vient par là, hein, alors que les Grecs disent que c'est l'âme, vous voyez, c'est pas l'esprit où il y a la vie, c'est pour ça. Ici, la vie, au moment de la chute, ça a été rompu, ce lien a été rompu. Et Dieu a même mis un obstacle pour revenir facilement, parce que l'homme voulait avoir la connaissance, donc il allait plus vers la connaissance, et au lieu d'aller à l'obéissance, Dieu a dit « tu ne mangeras pas ». Il a mangé, bah, il dit « tu assumes ta responsabilité ». Donc, il est vivant, mais pendant un certain temps. Alors, au début, c'était 900, après c'était 600, après, puis il a fixé à 120 ans à peu près. Aujourd'hui, on peut vivre. Donc, c'est un ballon qui se dégonfle. Mais comment être immortel ? C'est ça le problème. Comment être immortel ? Alors, ça, c'est la vision de l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, donc avec Christ, vous avez deux visions. Vous avez toujours l'esprit et la chair, et vous avez d'autres passages où il est question de l'esprit, de l'âme et du corps. Voilà. Alors, toute la question, c'est de dire, est-ce que la Bible se contredit ? Est-ce que Dieu se contredit ? Est-ce qu'il y a une erreur ? Où est l'erreur ? Voilà. Et en fait, au lieu de se battre sur le plan théologique en disant « ça c'est juste » ou « ça c'est juste », il faut simplement comprendre une chose, une clé de compréhension, qui est que ça s'est adressé aux Juifs. Pourquoi ? Parce que les Juifs, ils ont besoin de comprendre les choses à l'origine, comme Abraham a compris et comme la Genèse l'explique. Donc esprit et chair. Et ça, vous le retrouvez dans le Torah qui purifie, par exemple, où il dit « marcher par l'esprit et non par ?» Marcher par l'esprit et non par ? Et ça revient sans arrêt. La chair. C'est quoi la chair ? Ben, c'est tout simplement, quand vous regardez, la chair, c'est la somme de l'âme et du corps. C'est tout. Donc c'est pas, ça ne contredit pas. C'est simplement que là, on divise la chair entre l'âme et le corps. Et ça, c'est pour les Grecs. Ça, c'est tout le message pour les Grecs, pour ce qu'ils comprennent. Parce que eux, ils ont les trois parties, hein. Sauf que, bien sûr, vous avez compris que l'esprit ici, pour nous, pour le chrétien, c'est pas la raison. Okay, c'est bien l'esprit, c'est bien la vie. Et comment est-ce qu'on reçoit la vie ? Qui a la vie ? Est-ce que c'est les déesses ? Est-ce que c'est Isis ? Est-ce que c'est Notre-Dame ? Est-ce que c'est, voilà, c'est le féminin ? Non, la Bible dit que c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Donc pour avoir la vie, il faut être relié là. Vous voyez ? Il faut que l'Esprit de Dieu soit relié à l'Esprit, ce qu'on appelle le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et ici, pareil. L'Esprit de l'homme doit être livré. Parce que la vie, l'immortalité, elle est là. La vie immortelle est née qu'en Dieu. On est d'accord ? Oui, bon, c'est simple comme bonjour. La vie, si on veut l'immortalité, il faut se relier à Dieu. Tout le reste, qui est une explication de l'immortalité, c'est du bidon. C'est-à-dire qu'on va dans le mur, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est le mensonge de l'ennemi. Donc ceux qui cherchent l'immortalité par les momies de réincarnation, bah, ils seront déçus. Ceux qui cherchent par les gnoses, par la raison, ils seront déçus. Ceux qui cherchent par le bonheur d'être énergisé dans le corps, ben, ils seront déçus. Hein, et ils auront quelques joies éphémères, mais ça ne va pas durer longtemps. Mais ceux qui sont en liaison avec l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de vie, eh bien, ils ont la vie éternelle. Hello? Donc il n'y a pas de contradiction, sauf que la Bible ne devrait pas traduire ici l'âme. Hein, ceux qui ont devient une âme vivante, c'est un, comment on appelle ça, un anachronisme. C'est-à-dire qu'on donne un terme à l'époque où la Bible a été créée qui n'existe pas. Les Hébreux, une âme n'existe pas. Donc si on traduit par âme, bon, c'est peut-être une bonne volonté du traducteur, mais dire ça n'existait pas. Donc pour vous, ça peut vous faire plaisir que c'est âme, parce que ça veut dire anima, ça veut dire du latin, anima, animus, qui vient de vie. Hein. Mais le problème, c'est que si vous raisonnez avec ça, vous allez tomber dans la pensée grecque, où il dit que la psyché, elle est immortelle, l'âme est immortelle. Pour eux, l'âme est immortelle. D'accord ? Or, l'immortalité de l'âme, c'est dans la philosophie, mais ce n'est pas dans la Bible. Désolé. Le problème, c'est que tous les pères de l'Église, enfin les pères, les théologiens, Thomas d'Aquin, etc., ils ont suivi un petit peu cette philosophie, et aujourd'hui, la pensée chrétienne est polluée par toutes ces philosophies qui sont été introduites. Ici, l'âme n'est pas du tout, immortelle, elle fait partie de la chair. Donc elle meurt comme avec le corps, vous voyez. La personne, il n'y a que l'esprit qui transmet la vie. Alors je vais terminer par une dernière compréhension qui va, je pense, résumer un petit peu tout ça. C'est qu'en fait, entre les croyances païennes et les croyances bibliques, il y a deux grandes différences. Ici, on est sur des mythes. Les mythes, c'est des croyances très profondes. Vous ne pouvez pas les déraciner, sinon vous détruisez la compréhension même culturelle d'une personne. La personne s'identifie à un mythe, hein, même si elle n'appelle pas ça mythe, c'est une croyance profonde à laquelle elle croit. Et c'est la culture. Toutes les cultures sont basées sur les mythologies, sur les mythes. D'ailleurs, aujourd'hui, vous voyez bien qu'on ressort les mythologies. Hein. On ressort les mythes. Regardez, vous allez voir à Halloween, on vous racontez à l'école que voilà, il faut. D'ailleurs, aujourd'hui, Noël, c'est appelé Dieu de la. C'est le jour de la lumière. Hein. C'est plus le jour de la naissance du Christ, etc. Et Halloween, c'est pareil. On va vous raconter un tas de balivernes qui sont basées sur les mythes. Hein. Mythes celtiques chez nous, mais mythes en Océanie, c'est pareil. En Afrique, c'est pareil. Etc. Donc, c'est les mythes. Alors que la Bible est basée sur une histoire. La Bible est un récit historique. Jésus-Christ, c'est une personne, ce n'est pas un mythe, mais tout le monde veut le faire passer pour un mythe, comme ça on retombe dans le paganisme. Jésus-Christ est venu, et ça c'est une bagarre des chrétiens depuis 2000 ans, pour dire non, Christ n'est pas un mythe. Christ est une personne réelle qu'on peut rencontrer. Vous voyez, c'est la croyance évangélique. C'est une histoire. Et cette histoire, on peut la résumer comment ? On peut la résumer comme ça. Okay ? Ici, c'est Adam qui a été créé. Et Ève ensuite. Hein ? Alors que dans tous les récits, les trois récits principaux, c'est toujours Ève qui donne la vie à Adam. Toujours. C'est pour ça, 1 Timothée 2,15, quand Paul dira « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ça », il a raison. Parce qu'elle enseigne que Ève a été créée avant Adam. C'est ce qu'il dit dans le verset suivant. Non. Pourquoi ? Parce que là, c'est la terre, les terrestres. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure, ce qui est terrestre. Il produit un corps terrestre. Donc son corps est un corps terrestre. Et ce corps, comme je l'ai montré tout à l'heure, il a une durée de vie, hein, comme les aliments. Vous avez l'étiquette, voilà, le 3 janvier, vous ne pouvez plus la manger, c'est une durée de vie. Voilà. Donc vous avez une durée de vie de 120 ans, et après c'est fini. Okay, donc le corps est un corps terrestre. Quand Jésus est venu dans l'histoire il y a 2000 ans, lui est le chemin, la vérité, la vie, comme on a chanté. C'est-à-dire qu'il va vers Dieu, vers le Père, pas vers les déesses, mais vers le Père. pas vers Notre-Dame, mon mari, etc. Il va vers Dieu, le Père, le créateur de toutes choses. Il est le chemin, la vérité. Donc là, je suis en train de vous expliquer la vérité biblique et la vie. Donc c'est la vie par le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit qu'il est ressuscité d'entre les morts. La puissance de Dieu qui est venue le troisième jour, le sortir du tombeau et le ressusciter. Ici, historiquement, il y a quelque chose qui s'est passé dans ce fameux modèle à deux parties, l'esprit et la chair. On n'a pas besoin de savoir plus que la chair. Vous voyez, les Hébreux ne sont pas du tout analytiques. Ils ne cherchent pas à décortiquer. Les Grecs cherchent tout à décomposer. Et ici, alors, je vais le dessiner là. Il y a avant la chute et après la chute. Ici, c'est avant la chute. C'est Genèse 2. Et là, c'est Genèse 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu a soufflé sur Adam, quand il est dit, il est devenu une chair vivante ou un bazar vivant. Eh bien, en fait, il y avait une relation entre Dieu et l'homme au travers de son esprit. Et il pouvait aller dans le jardin tous les jours, parler avec lui, avoir une communication, avoir une relation. C'est ça, la vie. Et cette vie, elle est éternelle puisqu'elle vient de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé à la chute ? C'était coupé. Le problème, c'est que Ève, quand elle a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance, et elle dit à son mari, mais tu vois, c'est faux, je ne meurs pas, celui-là. Parce qu'il y avait une date de péremption, et elle a parlé avant la date de péremption. Il aurait dû attendre la date de péremption pour que Ève, Adam, voit clair, quoi. Mais comme il a cru sa femme, hein, vous ne voyez pas tout le monde comme ça, ah bah, il est tombé dedans aussi. Okay, il fallait attendre la date de péremption qui est venue après. Il est mort, Adam, Ève aussi. Mais par la foi, il aurait dû garder ce contact. Donc, la chute a fait que là, pardon, là, c'est avant la chute, ça c'est après la chute, il n'y a plus rien. Donc, cette partie est autonome et elle est toujours autonome jusqu'à présent. Aujourd'hui, quand vous parlez à des gens, quand vous prêchez l'évangile, quand vous parlez à des gens, eh ben, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'ils naissent d'en haut. Ça s'appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, accepter Jésus par la foi, c'est accepter que ici Jésus a réglé la question du péché, de la séparation, et il y a de nouveau une relation qui se fait avec Dieu. C'est simplement ce cordon qui s'établit à nouveau, et on a la vie éternelle. Pourquoi ? Parce que Dieu, c'est la vie éternelle, c'est tout. Donc on a, quand on devient chrétien par cette relation, on a la vie éternelle. Amen. Alors ce dessin-là, on le représente par ça. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, on a la chair. Et bon, on remonte. Ici, on a l'esprit. C'est pour ça qu'on est assis dans les lieux célestes avec Christ ici, dans l'esprit. Et là, on est dans la chair, sur la terre, où il y a un processus. Et dans ce processus, alors avec la dimension des trois parties, ça peut mieux s'expliquer. C'est pour ça qu'il n'y a que Paul qui parle du corps, de l'âme et de l'esprit, parce qu'il était l'apôtre des païens, et pas Pierre. Et Jean, pour d'autres raisons, parce qu'il combat le gnosticisme qui est issu des Grecs. Donc pour les deux raisons différentes, Paul et Jean, ils utilisent ce modèle à trois parties pour qu'il soit compris par les Juifs. Parce que les Juifs, ils connaissent le mot « chair » qui est « sars », mais ils ont dans leur tête la croyance, et il fallait retourner cette croyance pour montrer que, ici, l'esprit, comme ici, doit être né de nouveau. L'âme, ici, et le corps. L'âme doit être sanctifiée. C'est ce qu'on appelle la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est la sanctification. Et le corps, il faut qu'il attende. Il faut qu'il attende, mais c'est dans le plan de Dieu. Ça s'appelle le plan de rédemption, de rachat. Dieu nous a rachetés en Jésus-Christ. Et il a racheté l'ensemble de notre être pour lui donner la vie éternelle et lui donner un sens. Et vous, le sens, c'est ça. Et l'immortalité, c'est le corps. Et les deux questions Dieu répond dans la Bible par ça. Mais il faut attendre ce moment-là. Si nous, nous sommes là, hein, nous sommes en 2016, Jésus est venu en l'an zéro, et il faut attendre ce moment-là. C'est quoi ce moment-là ? Là, c'est le temps. Hein, on est dans le temps, dans l'histoire. Ici, c'est le temps. Okay ? Et ici, le temps continue, puisque le temps est immortel pour Dieu. On vivra éternellement avec Dieu. Donc là, c'est l'éternité. Okay ? Cette barre-là que j'ai dessinée, où il y a l'homme naturel et l'homme spirituel, quel est ce temps-là ? Quel est ce moment, cet événement ? Là, c'est l'événement de la venue de Jésus. Ben, voilà. C'est le retour de Jésus. Alors ? Vous êtes réveillés ? Le retour de Jésus. Donc, on attend le retour. Le Messie est un Messie annoncé qui va traiter la question du péché et de l'immortalité, parce que nous sommes morts naturellement. Et c'est la semence. On met une semence en terre et elle croit différemment. C'est tout le texte de Corinthiens. Et le retour de Jésus, il est accompagné de quoi ? C'est ça qui est important. La résurrection des morts. Amen. Voyez-vous, c'est ça la réponse chrétienne. Jésus est ressuscité des morts il y a 2000 ans. Mais c'est le prémisse. C'est le deuxième Adam. Ça, c'est le deuxième Adam. C'est-à-dire que c'est une nouvelle semence, un peu comme si là j'ai deux semences. Ça, c'est la semence d'Adam au départ. Ça, c'est la nouvelle semence. Il y a une nouvelle semence, une nouvelle race qui a été créée. C'est Jésus qui est le deuxième Adam d'une nouvelle race qui est ici, qui, elle, le corps ne peut pas se corrompre, puisque lui-même est sorti de la mort. Et c'est pour ça que l'apôtre dira dans le texte qu'on a lu que ô mort, où est ta victoire ? La mort n'a plus de pouvoir sur ce corps. C'est un corps de gloire, un corps de résurrection, un corps comme Jésus s'est manifesté aux trois disciples, Pierre, Jean et Jacques, quand il est apparu dans la gloire. Et c'est ce corps-là que nous allons recevoir. Donc vous voyez, les trois éléments qui au départ étaient du bazar, ben, ils vont se mettre en ligne avec cette réponse que le sens nous vient de Dieu. Pourquoi nous sommes créés ? Parce qu'il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Mais nous avons l'immortalité, mais en espérance. L'espérance du retour de Jésus, l'espérance de la résurrection des morts. Et là, tous les morts vont ressusciter en Christ et ils entrent dans l'éternité. Donc les trois éléments. C'est pour ça que l'homme est appelé à avoir un corps. Et vous voyez que dans les précédentes croyances païennes, le corps est malmené. Pour les Grecs, le corps, c'est une prison pour la raison. Donc, il faut qu'il meure. Vous voyez ? Donc, le corps, paf, on le casse. Pour les Asiatiques, bouddhisme, zen, machin, etc., le corps doit être l'élément principal pour recevoir l'énergie cosmique. Et puis, voilà. Vous voyez ? Donc, c'est un instrument, le corps. Et le corps, chez les Égyptiens, les Chamites, c'est il faut qu'il attende la réincarnation, pour de nouveau revivre. Et nous, les chrétiens, bien, nous avons une vision merveilleuse, extraordinaire, c'est que nous restons un être humain, avec notre personnalité, avec tout ce que nous sommes, mais nous aurons un corps de gloire, un corps glorieux, comme Jésus, voilà, qui est un corps extraordinaire, qui n'est plus le même que maintenant, parce que nous serons complètement transformés, transfigurés, et nous vivrons avec ce corps. C'est pour ça que nous ne sommes pas des êtres célestes au sens des anges. Nous sommes des êtres, justement, nous devons apprendre ce que vous apprenez aujourd'hui dans la gestion, dans la façon de vous comporter, dans la façon de réagir, ça va vous aider dans l'éternité. Vous voyez, c'est ça, ça prend du sens. Hello ? J'ai votre attention là ? Voyez-vous, c'est un message extraordinaire, c'est un message, c'est pour ça que les premiers apôtres, les premiers chrétiens, ils ont bouleversé le monde sans dessus-dessous. Ce message bouleverse complètement les croyances et la manière dont on voit les choses et l'avenir et la vie, la vision, l'immortalité, etc. On ne peut pas la chercher, l'immortalité nous est donnée. Alors ? Sauf qu'il faut l'attendre, en espérance. Et ça, tout simplement, ça résume le livre de George Eldon Ladd sur la théologie du royaume. C'est le déjà, pas encore. C'est déjà. Nous vivons en esprit avec le Seigneur. Et nous avons la vie qui est immortelle en Jésus-Christ. Et nous l'avons. Seulement, il nous demande de nous sanctifier notre âme, qui, elle, est pas bonne, mais qui peut s'améliorer. Parce que ce sont les œuvres du Seigneur. C'est pour ça que dans Thessaloniciens, il dit « Ce que vous faites pour le Seigneur n'est pas vain. Ce que vous faites dans l'œuvre du Seigneur ne sera pas vain. » Parce que nous sommes dans du sens à l'histoire. Ce que vous faites ici, alors si vous sanctifiez et vous mettez à part, sanctification, vous mettez à part, vous mettez votre vie à part pour le Seigneur, ça ne veut pas dire que vous allez dans un monastère. Okay ? Ça veut dire que tous les jours, là où vous êtes, vous glorifiez Dieu dans votre vie. Tous les jours, là où vous êtes, vous élevez le nom du Seigneur, non pas forcément par les paroles, mais par votre attitude. Et là, vous allez mettre à part votre vie, les gens vont s'en apercevoir, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il a ? Ce chrétien, il a quelque chose de particulier. Et vous allez glorifier le Seigneur, parce que ceux qui cherchent la vérité, ceux qui ne les cherchent pas, ils ne la trouveront pas. Ceux qui cherchent la vérité, ils vont la trouver au travers de vous. Vous serez une perle précieuse entre les mains de Dieu pour le glorifier. Et ça, c'est la partie, une fois que nous avons reçu la vie, en haut, mais mettons-nous à l'œuvre pour le Seigneur. Sachant que il y a un terme où nous aurons la gloire éternelle. La gloire éternelle au travers du corps de résurrection, du corps glorieux, qui sera le même corps que Jésus a eu au moment de la résurrection. Alors, c'est pas merveilleux ça? Donc voyez, il faut sortir des liens culturels, il faut sortir des croyances, parce que chacun de nous, quels sont ceux qui font partie des chamites? Quels sont ceux qui font partie des Asiatiques, les Coréens? Quels sont ceux qui font partie des Européens? Alors, il y en a qui ont adopté l'Europe. Mais voilà, c'était juste pour vous provoquer. Hein. Ce n'est pas aussi simple que ça. Hein. C'est un peu, voilà. Mais globalement, c'est quand même... De toute façon, ces trois véhicules, vous avez vu, ils disent tous que la vie vient de la déesse. Bon. Est-ce que vous voulez adorer la déesse? Hein, qu'elle s'appelle Isis, qu'elle s'appelle Artémis, qu'elle s'appelle Notre-Dame, qu'elle s'appelle Marie, qu'elle s'appelle... Est-ce que la vie vient de la femme? Mais pourquoi alors croire ce genre de bêtises? Alors que la vie vient de Dieu, notre Père, qui nous aime, qui nous a créés pour être à sa gloire, pour avoir du sens, pour vivre une vie d'homme et de femme qui le glorifie. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Nous avons une foi qui tient la route, mes amis. Une foi pour laquelle les premiers chrétiens sont devenus des martyrs. Parce que la vérité libère. Parce que personne ne pouvait les remettre dans ces anciennes croyances. Mais trop souvent dans l'Église, ces croyances pénètrent dans l'Église. Et mes amis, je peux dire aujourd'hui, c'est incroyable comment les croyances pénètrent dans l'Église. Et ça s'appelle le Nouvel Âge. Et c'est un mélange entre ça, mais qui devient fade. On n'est plus sûr. On n'est plus ferme sur nos convictions. Et on mélange. Et dans le comportement naturel, au lieu de se sanctifier, eh bien on fait des choses pareilles que les païens. Mais on les sanctifie, on les spiritualise. C'est le pire qui peut arriver parce qu'on n'a plus l'acuité visuelle de la vérité. Alors, il faut se ressaisir parce que l'Église est en danger. L'Église est en danger, les chrétiens sont en danger parce que cette nouvelle façon de voir vient du paganisme. Et le paganisme détruit toujours la foi véritable. Restons sur une position. Là, on rejoint le quadrilatère wesleyen, de Wesley. Vous avez la foi qui est composée des Écritures. Et là, c'est les Écritures qui parlent, qui donnent la vraie croyance. L'expérience, bien sûr. Vous voyez, l'expérience, il faut une expérience avec Dieu pour la vie éternelle. Une tradition, mais qui est une tradition biblique et apostolique, qui ne transmet pas des erreurs. Beaucoup de traditions transmettent des erreurs. Et la raison, qui est très importante, mais qui n'est pas la raison grecque qui nous sauve, mais c'est la raison qui est servante de la foi, qui est soumise à la foi, qui donne des arguments. Vous pouvez vous pouvez ne pas convaincre votre, ceux qui sont à côté de vous, dans le travail, etc. C'est l'esprit qui convainc. Mais vous pouvez les amener à réfléchir correctement et à dénoncer les erreurs dans lesquelles ils sont. Mais si vous-même, vous êtes en partie dans l'erreur, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Plus vous êtes clair au niveau de la foi, plus vous pouvez dénoncer les erreurs. Mais attention, hein, l'ennemi vous tient au coin du bois. Parce que celui qui veut absolument dénoncer la vérité, l'ennemi, il le cible. Donc vous serez une cible de l'ennemi. Mais n'ayez pas peur, Christ est avec vous. Jésus a été confronté. Pilate lui a dit, mais c'est quoi la vérité? Il le toisait. Tu dis que tu es la vérité. C'est quoi la vérité? C'est un philosophe, c'est un grec. C'est quoi la vérité? Mes amis, ne vous laissez pas embarquer. La vérité, c'est Jésus. Elle est dans une personne qui est morte pour nous, pour nos péchés, pour nous libérer, pour ressusciter, pour être le prémisse de ce nouvel Adam dans lequel nous sommes en formation, en devenir, avec la sanctification et la rédemption de notre corps qui va ressusciter lorsque Jésus va revenir. Amen. On va prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Ta parole, Seigneur, qui traduit, Seigneur, cette histoire de la rédemption où tu as voulu racheter l'homme de ce plan initial que tu avais toujours pour lui, de lui donner la vie éternelle, Seigneur. C'est vrai que c'est aberrant que notre vie s'arrête. Personne ne comprend et tout le monde cherche cette immortalité. Mais Seigneur, toi, tu nous l'as donnée. Tu es ressuscité d'entre les morts. Seigneur, tu es celui qui est la nouvelle race dans laquelle, Seigneur, tu nous as placés. Et nous savons que notre corps va ressusciter dans cette nouvelle dimension et nous resterons la personne que nous sommes. Mais Seigneur, en attendant, tu nous demandes de nous sanctifier, que notre âme, que nos émotions soient soumises, que notre expérience soit soumise à la parole, que Seigneur, nos traditions soient soumises à ta parole, que notre raison soit soumise à ta parole. Mais Seigneur, tu nous donnes toutes ces choses pour que nous soyons des véritables humains, qui soyons capables de témoigner de notre foi, comme l'ont fait les apôtres, comme l'ont fait les premiers chrétiens, Seigneur, devant l'adversité. Rien ne peut tenir devant une conviction que tu nous donnes. Alors Seigneur, donne-nous cette conviction, que cette Église puisse tenir ferme par rapport aux assauts, Seigneur, que l'ennemi est en train de mener dans le monde et dans la société. Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes solides dans la foi et nous te remercions pour ta grâce dans le nom de Jésus. Amen, amen. Nous allons prendre...